Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette de l'espace sur les routes de la musique. Cette semaine, nous allons voir comment notre perception historique occidentale est focalisée sur un seul aspect concernant l'Orient et l'Occident. Une opposition frontale, massive, millénaire, bloc contre bloc. On parle de choc des civilisations, entretenu, il est vrai, par des déchirements, les croisades, les razzias, les massacres, les conflits religieux, les attentats qui n'en finissent pas et qui touchent les mêmes terres, produisant les mêmes horreurs à plus de 1000 ans d'intervalle. Et pourtant, ce récit est sans cesse alimenté d'un contre-récit, souterrain, caché, inconnu, et qui demanderait tant à être révélé au grand jour, à savoir la circulation de la sagesse d'Orient en Occident, à travers un véritable réseau qui maillait toute l'Europe et l'Orient, et dans lequel pouvaient circuler librement, en ayant accès à tous les secrets, les hommes de cœur armés de leur seule bonté et d'un peu de patience. Oui, tel Guillaume de Baskerville, le moine détective et érudit incarné par Sean Connery dans le magnifique film de Jean-Jacques Hano, tiré du magnifique livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose, nous allons remonter à contre-courant des haines des obscurantistes qui salissent notre wonderful world. Nous allons remonter à la source du savoir souterrain qui irrigue de sagesse ceux qui veulent bien se brancher à cette source infinie et disponible. Avec une spéciale dédicace à Patrice Hernu qui a inspiré en grande partie ce récit. Après tout, c'est peut-être la musique qui sauvera le monde.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man.
She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the
Les prêtres égyptiens déportés dans les hautes vallées perses en 600 avant Jésus-Christ vont initier un mouvement spirituel basé sur des petits groupes appelés Pléiades. Ils vont donner naissance à une branche du judaïsme et à une maison, la maison de Jacob, qui se distingue du judaïsme officiel conçu à Babylone, qui porte lui le nom de maison de David. La maison de Jacob pratique des rites basés sur des actes et invente, avant même la naissance de Jésus, la pratique du partage du vin et du pain. Le vin symbolisant l'esprit, le pain la matière, ce qui deviendra l'Eucharistie des chrétiens. Leur foyer principal se tient dans une ville perse qui s'appelle Qashan. Qashan, en araméen, veut dire « rose ». Qa signifie la royauté. Qashan signifie donc la rose reine, celle qui représente la jonction entre la terre et le ciel que l'on va retrouver dans la tradition de la Kabbale. Mais nous parlerons de Kabbale plus tard. En attendant, la rose va être le symbole de la spiritualité primordiale.
Arrêtons-nous un instant et prenons le temps de faire un bouquet de roses.
Si les roses sont très belles dans un jardin, n'ayez pas peur d'en couper quelques-unes pour ramener à la maison. C'est toujours agréable.
Nous cueillons des roses et derrière chacune d'elles, un nouveau symbole apparaît.
La rose est sans doute le plus populaire des végétaux symboles. Chacun sait que rose rouge signifie amour ardent, rose thé galanterie, rose rose serment d'amour, rose blanche amour qui implore.
Donc on va principalement couper des roses qui ont un bouton légèrement ouvert, hein, ne coupez pas des boutons trop fermés.
Nous respirons la rose de l'amour, mais oh, ça sent bizarre.
La rose, emblème d'amour charnel, est aussi emblème de chasteté. Cette fleur est attribuée à la Vierge, parfois appelée Rosa Mystica ou Rosa Celi.
Ah bon ? On coupe la chasteté pour passer à autre chose.
Donc on coupe des longueurs de tiges en fonction des vases et de ce qu'on veut faire à la maison.
Et quand on coupe, du sang coule. Mais d'où vient-il ?
Bah, t'as dû te planter une épine dans le doigt.
Mais non, même pas.
Dans les catacombes, la rose et la couronne de rose sont les symboles du martyr. Dans l'iconographie chrétienne, elles figurent le sang du Christ.
La rose est donc tour à tour symbole d'amour, de chasteté, de sang.
Maintenant, on les a coupées. Suivez-moi, on va aller à l'intérieur pour préparer le bouquet.
On glisse entre les pétales. Que se cache-t-il encore dans notre bouquet ?
Si la rose est le symbole le plus accessible, elle est aussi le plus secret. La confrérie la plus mystérieuse de l'histoire n'est-elle pas celle des roses-croix ?
Et maintenant que l'on sait qu'il y a tout cela dans la rose et sans doute plus, que fait-on ?
Après, vous formez votre bouquet. On peut également rajouter un peu de verdure, hein, toutes les fantaisies sont possibles.
Oh, c'est toujours beau et émouvant quand tout est possible.
En Occident, on va découvrir la rose bien plus tard grâce aux Templiers. Grand saut dans le temps. Nous voici maintenant en 1210. C'est le début de l'affaiblissement des croisades. Les Templiers sont épuisés par les guerres incessantes et d'autre part sont bien moins riches qu'on le prétend, même s'ils ont inventé le billet à ordre, les premières banques. Ils ont beaucoup de mal à entretenir leur fort en Terre Sainte.
Où vas-tu ?
À Jérusalem, mon frère.
Par quelle route y vas-tu ?
Oh, moi j'en sais rien. Seul Dieu le sait.
Les Templiers sont à la base un ordre de moines-soldats ayant pour mission de protéger les pèlerins qui se rendent en Terre Sainte. Jérusalem est le premier centre de pèlerinage de toute la chrétienté. Son accès libre est toléré par les Arabes et soudain refusé par les Turcs seldjoukides qui, en 1078, soumettent les populations chrétiennes aux vexations et à l'esclavage. Dans le même temps, les Byzantins, dont l'empire chrétien d'Orient se trouve menacé par l'invasion des Turcs, demandent à plusieurs reprises les aides de Rome contre les seldjoukides. En 1095, lors d'un séjour en France, le pape Urbain II prend acte de la fureur des chevaliers à qui les Turcs barrent dorénavant la route de Jérusalem et répond à la demande d'Alexis Ier, empereur des Byzantins. Ainsi, le 27 novembre 1095, au cours du concile de Clermont qu'il a fait réunir, le pape prêche pour secourir l'empereur byzantin et pour libérer la Terre Sainte à Jérusalem. C'est le déclenchement de la première croisade.
On prétend que Jérusalem est vraiment le centre du monde pour qui cherche le pardon.
Est-il vrai qu'à Jérusalem j'effacerai mes péchés ?
Viens et nous le découvrirons.
En En échange de leur participation à l'expédition, il promet le pardon de leurs péchés aux chevaliers qui iraient porter secours aux chrétiens d'Orient. Le pardon des péchés est un ressort magnifique, très utile pour lever des fonds, des armées, voire susciter des trafics, comme le trafic des indulgences qui permettait, moyennant pognon, de s'assurer d'une place confortable au paradis. Il s'agit aussi pour la papauté de renforcer son autorité en rassemblant une noblesse occidentale toujours désireuse de s'affranchir de la tutelle spirituelle de Rome. Rien de mieux qu'une bonne petite croisade pour rassembler ses troupes et oublier ses petites querelles face à un ennemi commun.
Sex is obscene. We've got it twisted in this lucid dream. Baptized in boundaries, schooled in sin, divided by difference, sexuality and skin. So we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked in. Yeah, we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself locked in, yourself locked. Sex was holy and war was obscene, and it wasn't twisted. What a wonderful dream. 'Cause peace and love ain't so far if we nurse our wounds before they scar. Nurse the wounds before they scar.
Alicia Keys qui nous chantait Holy War.
France Inter, les routes de la musique. André Manoukian.
Voilà donc notre expédition punitive en route pour l'Orient et ses richesses. Très vite, les princes latins qui avaient promis à l'empereur byzantin de lui rendre les terres récupérées, les gardent pour eux. La chrétienté n'est pas vraiment unie. Les dangers sur la route sont plus que nombreux. Il faut organiser ce qui dorénavant s'appelle une croisade, en raison des croix rouges que portent les pèlerins combattants sur leurs vêtements. Comme la société médiévale est organisée en trois ordres, on organise l'expédition de la même manière. Ceux qui prient, oratores en latin, ceux qui travaillent, laboratores, et ceux qui se battent, bellatores. Les moines, les paysans et les chevaliers. Les chevaliers s'appellent d'abord la milice des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon. Car dans Jérusalem, c'est dans les ruines de ce qu'il pensait être le temple de Salomon, l'actuel emplacement du mur des Lamentations et de la mosquée Al-Aqsa, qu'ils s'installent. Très vite, on va les appeler les Templiers. Mais ils ont besoin de fonds pour se structurer et d'aide aussi. Alors ils vont en Europe demander à être adoubés par les autorités ecclésiastiques. Ce qui est une grande première en somme. Pour la première fois, des moines vont avoir l'autorisation de tuer.
Prends l'épée, voyons de quoi tu es capable.
Il faut lever la garde. Suis-moi. Tu as besoin de t'exercer.
Un de leurs défenseurs va être Bernard de Clairvaux, le maître spirituel de l'ordre des cisterciens, un ordre qui restaure les valeurs de l'ascétisme, de la rigueur liturgique et du travail, comme le prouvent les splendeurs architecturales que l'on peut admirer dans les abbayes cisterciennes qui vont se répandre aux quatre coins de l'Europe et qui vont devenir un des principaux réseaux de diffusion du savoir, un hub, une toile avant la lettre. Bernard de Clairvaux souligne l'originalité du modèle des Templiers. Le même homme se consacre autant au combat spirituel qu'au combat dans le monde. Il n'est pas rare de voir des hommes combattre un ennemi corporel avec les seules forces du corps, pour que je m'en étonne. D'un autre côté, faire la guerre aux vices et aux démons avec les seules forces de l'âme, ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi extraordinaire que louable. Le monde est plein de moines qui livrent ces combats, mais ce qui pour moi est aussi admirable qu'évidemment rare, c'est de voir les deux choses réunies.
Aujourd'hui au programme, le mystère des Templiers.
Mais qui étaient réellement ces Templiers qui ont dominé le médiéval? Un ordre de chevalerie, monastique et militaire bien sûr, qui poursuivait un but politique et un grand dessein mystique. Ils étaient chargés de rétablir les liens rompus entre deux traditions communes à l'origine, l'Orient et l'Occident, la croix et le croissant.
Et Saint Bernard, qui est-il ?
Et Bernard de Clairvaux, c'est à la fois un chevalier et un moine.
Par son charisme et son rayonnement, il veillait à la stricte observance de la règle de vie monastique, promouvant ascétisme et dépouillement.
Le Saint Bernard est un chien remarquablement intelligent. Il est gai, joueur, très proche de son maître, et prêt à vivre toutes les situations.
Saint Bernard est sociable, calme et actif à la fois. Ainsi, il va devenir un personnage important, autant au niveau religieux que politique.
Bernard de Clairvaux est l'un des personnages qui ont le plus marqué le XIIe siècle. C'est lui qui écrira et fera approuver la règle et les statuts des Templiers, prêchant également pour la Seconde Croisade et usant de son influence lors de l'élection de certains papes.
Nous sommes à l'époque de la première puis de la seconde croisade. Jérusalem est tout le temps menacée.
Ordre reçu, je déclenche les secours.
Saint Bernard part en sauvetage de Jérusalem. Saint Bernard est accompagné de ses fidèles chevaliers, les Templiers, et une nouvelle idée de la foi.
Le dieu de Bernard n'est pas un dieu de raison. Il n'est pas un dieu que l'on démontre. Il est un dieu de foi et d'amour. Il est une expérience, non pas une saisie.
Dieu est une expérience alchimique. Il est partout. Il est l'insaisissable.
Il est un peu comme le brouillard.
When I sing about love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. Seen a lot of young men go to war and leave a lot of young brides waiting. I watched them try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again. Daddy won't said a lot of things that I can't take back, but I don't really know if I wanna. And songs about love, I sang songs about war since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. Wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war. Love and war.
Neil Young, Love and War. Saint Bernard de Clairvaux, le maître spirituel de l'ordre des moines cisterciens, explique pourquoi les Templiers ont le droit de tuer un être humain. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit dans une sécurité plus grande encore. Lors donc qu'il tue un malfaiteur, il n'est point homicide, mais malicide. La mort qu'il donne est le profit de Jésus-Christ et celle qu'il reçoit le sien propre. Mais pour cela, il fallait que la guerre soit juste. C'est l'objet du chapitre 2 de l'éloge de la nouvelle milice. Bernard est conscient de la difficulté d'un tel concept dans la pratique. Car si la guerre n'est pas juste, vouloir tuer tue l'âme de l'assassin. Toutes les fois que vous marchez à l'ennemi, vous qui combattez dans les rangs de la milice séculière, vous avez à craindre de tuer votre âme du même coup dont vous donnez la mort à votre adversaire, ou de la recevoir de sa main, dans le corps et dans l'âme en même temps. La victoire ne saurait être bonne quand la cause de la guerre ne l'est point et que l'intention de ceux qui la font n'est pas droite.
Une nouvelle sorte de moine, des tueurs, des chevaliers, parcourent le pays. Une croix autour du cou et une épée à la ceinture.
Chevalerie nouvelle, certes, et telle que le monde n'en a pas encore connue jusqu'ici. Destinée à mener le double combat, sans relâche, contre la chair et le sang, et contre les esprits de ténèbres.
Je te tue, tu me tues, on se tue, qu'en penses-tu ?
Qu'un homme engage toutes les forces de son corps dans sa lutte contre un ennemi corporel, le fait n'est pas rare. Le monde est plein de moines qui livrent ce combat.
Depuis quand peut-on tuer au nom de Dieu ?
Il y a chez Bernard de Clairvaux cette idée qu'on doit faire la guerre. On est tout le temps dans l'ordre de la guerre juste. C'est-à-dire que la guerre n'est pas une guerre de conquête, c'est purement une guerre de défense. On doit faire la guerre, effectivement, mais on doit faire la guerre en chrétien. Et on doit toujours, de toute façon, se comporter en chevalier.
Et la nouvelle milice arpente le monde pour tuer le mal.
Le chevalier qui d'un même mouvement a revêtu son âme de la cuirasse de la foi et son corps de la cuirasse de fer. Muni de l'une et l'autre armure, il ne craint ni l'homme ni le démon. Loin de redouter la mort, il la désire. Le Christ est sa vie. La mort est un gain. De quoi aurait-il peur ?
Les chevaliers intrépides n'ont peur de rien, ni de la vie, ni de la mort.
Bernard de Clairvaux fait donc bien l'éloge de la nouvelle milice, mais non sans nuances et précautions. Il trace un portrait volontairement idéal du soldat du Christ afin de le donner comme un modèle qui sera toujours à atteindre. Cet éloge permet aux Templiers de rencontrer une grande ferveur et une reconnaissance générale. Grâce à Saint Bernard, l'ordre du Temple connaît un accroissement significatif. Bon nombre de chevaliers s'engagent pour le salut de leur âme ou tout simplement pour prêter main forte en s'illustrant sur les champs de bataille.
J'ai 100 hommes d'armes à Jérusalem. Si tu prends la croix avec moi, je t'offre une vie nouvelle.
Le statut de l'ordre du Temple va être officialisé par le pape. Ils vont avoir des privilèges qu'aucun autre ordre n'aura jamais. Ils ont le droit d'avoir leur propre prêtre, ils sont complètement indépendants avec le reste du clergé, ils perçoivent leur propre dîme, ils enterrent leurs morts dans leur propre cimetière. De plus, leurs familiers reçoivent les mêmes avantages qu'eux. Ils ont enfin leurs propres règles, inspirées des moines bénédictins, mais plus light. Comme ils doivent combattre, ils sont dispensés de jeûner, par exemple. L'entrée dans l'ordre était gratuite et volontaire. Le candidat pouvait être pauvre. Avant toute chose, il faisait don de lui-même. Il était nécessaire qu'il fût motivé, car il n'y avait pas de période d'essai. L'entrée était directe et définitive. Les principaux critères étaient les suivants. Être âgé de plus de 18 ans. La majorité pour les garçons était fixée à 16 ans. Article 58 de la règle. Ne pas être fiancé. Article 669 de la règle. Ne pas faire partie d'un autre ordre. Article 670 de la règle. Ne pas être endetté. Article 671 de la règle. Être en parfaite santé mentale et physique. Ne pas être estropié. Article 674. Le candidat était prévenu qu'en cas de mensonge prouvé, il serait immédiatement renvoyé. Naturally, the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide. Idiots, dilettantes, and fools on his watch while he was alive. Lord, just a little more. Father John Misty, Ballad of the Dying Man. Nos Templiers sont les super-héros de l'époque, des moines, des chevaliers, des frères tenus par des vœux, des combattants redoutables, des commerçants avisés, des architectes qui construisent des forts de Venise jusqu'à Jérusalem, des marins qui affrètent des navires, des financiers qui inventent la banque permettant aux pèlerins de déposer son or à Paris et par des billets d'ordre, ancêtres des travelers tchèques, de retirer dans des comptoirs jusqu'à Jérusalem l'argent déposé à Paris. Ils sont jalousés des autres ordres ecclésiastiques pour leur liberté vis-à-vis du pape et des rites aussi. Ils représentent une puissance financière, politique et militaire. Mais voilà que les royaumes latins d'Orient s'épuisent et qu'ils ne peuvent plus tenir leur place forte.
Sais-tu ce qu'il y a en Terre Sainte ? Un monde nouveau, tel qui en France n'avait pas de maison. En Terre Sainte, il est le maître de la ville. Là, tout au bout de la terre, la naissance n'est plus rien. Seul le mérite compte.
Les Templiers ont besoin de main-d'œuvre pour entretenir leur château, leur fort, mais ils ne peuvent plus payer. Alors, ils font une demande particulière qu'ils adressent à tous les ouvriers d'Europe. Si ceux-ci viennent travailler dans les forteresses de l'ordre du Temple, en Perse, à Antioche, à Jérusalem, ils ne seront pas payés, mais en échange, ils seront nourris, logés et repartiront avec le titre de chevalier templier, accédant ainsi à la noblesse d'épée.
Un super héros moine ? Non, c'est pas possible.
Parfois on peut s'y tromper, ce monsieur par exemple, c'est un moine soldat, ce qu'on appelle un templier. Hey, chevalier, bouge pas. Oupla, tu vas m'emmener dans ta forteresse.
Aujourd'hui, tuto pour devenir chevalier.
Chevalier veut dire celui qui va à cheval ou celui qui chevauche. Ce sont donc tout d'abord des hommes qui possèdent un cheval.
Moi j'ai une Peugeot 103, ça suffira ? Ouais ? Bon, ensuite.
Ton épée est comme ta parole, elle est à double tranchant. Tu peux choisir d'utiliser tes mots pour faire du bien, pour donner de l'amour, ou alors dire des mots qui font mal. Mais attention, lorsqu'on donne un coup d'épée, il ne faut pas s'étonner d'en recevoir un en retour.
Lorsque l'on fait face à une épée lourde de plusieurs kilos, mieux vaut ne pas baisser sa garde.
D'accord, j'ai trouvé une épée en plastique et je chevauche ma mobilette. Où je vais ?
Maintenant que tu as ton épée et ton bouclier, que fais-tu ? Ta quête, c'est la recherche de la vérité.
Ça, c'est moins facile. Comment ils ont fait les moines chevaliers templiers ?
Le templier est un homme qui a reçu l'enseignement et qui a réussi les épreuves de l'initiation.
D'accord. Il me faut donc trouver un templier pour qu'il m'aide dans ma quête.
Vous allez sourire, mais il me semble avoir aperçu un soir le fantôme d'un chevalier. Il était vêtu d'une robe et d'un manteau blanc, d'où jaillissait une croix. Une croix pourpre comme un soleil. Et il montait un cheval noir.
Ça, c'est un super héros, pas de doute. Dis-moi, super moine héros chevalier, donne-moi des trucs pour réussir ma conquête.
Tous les jours de votre vie, vous aiderez à conquérir la Terre Sainte de Jérusalem.
Je pars donc en route pour Jérusalem.
Va, chevalier, et parcours le monde, le cœur ouvert.
Bon, je vais mettre un petit peu de temps à arriver, hein.
Voilà, l'offre des Templiers est simple, c'est du troc. On ne peut pas vous payer, mais vous venez travailler chez nous et vous avez le statut de chevalier. Il ne faut pas oublier qu'en Europe, à cette époque, on est en plein servage. Devenir chevalier pour un ouvrier, c'est inespéré. Seulement, le voyage en Terre Sainte est plein d'embûches. Il se trouve que seuls les ouvriers les plus pauvres vont accepter cette offre et ceux-ci sont majoritairement des Écossais. Les ouvriers écossais qui se mettent au service des Templiers pour travailler à leur fort vont être légèrement trompés sur la marchandise. Mais ils ne vont pas forcément y perdre au change. Voyons de quoi ils retournent. Pour être admis chevalier du Temple, il faut être initié à l'ordre de la règle de Saint Bernard de Clairvaux, la règle chrétienne. Seulement, on est en Orient, et des Templiers scrupuleux se demandent si ce troc spirituel est équitable. L'accès à la chevalerie, à la noblesse pratiquement, à des ouvriers pauvres et incultes paraît surpayé. Alors, on va les initier, pour tenir sa promesse, mais à la règle des corporations musulmanes de l'époque. Corporations ouvrières, comme il y en a en Occident, autour des métiers. Or, il se trouve, et c'est là que nos ouvriers écossais ne perdent rien au change, que ces corporations musulmanes sont très érudites. Elles ont tout d'abord joué un grand rôle dans l'expansion de l'islam dès la mort du prophète, mais surtout, Elles sont inspirées des textes qui ont été conservés dans les hautes vallées perses, les textes des prêtres égyptiens exilés qui ont donné les Esséniens et qui posèrent les bases du christianisme avant même la naissance de Jésus. Chantait Damas.
André Manoukian, Les routes de la musique sur France Inter.
En 1291, c'est la chute de Saint-Jean d'Acre, la fin du royaume franc de Jérusalem, la fin des croisades et la fin de la présence des Latins en Terre Sainte. Le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui était de la dernière croisade, rentre en Angleterre et décide de récompenser ces courageux ouvriers écossais qui non seulement se sont comportés valeureusement, mais qui reviennent avec un savoir-faire formidable. Il ne faut pas oublier qu'en ces temps-là, les Arabes sont bien plus avancés dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie, de l'architecture et de la médecine. Il faut lire « Les croisades vues par les Arabes » d'Amin Maalouf de l'Académie française pour voir à quel point en Europe nous étions des barbares comparés au raffinement de la civilisation arabe.
Les croisades vues par les Arabes.
Chaque pays dessine à la carte du monde en se mettant au milieu. Mais pourtant, nous ne sommes pas le centre du monde.
On a toujours eu l'habitude de voir les croisades vues par les chrétiens et par les occidentaux. Et là, c'était une histoire des croisades vues par le monde arabe.
Il eût été un pays, celui d'Amin Maalouf, qui était le rassemblement de toutes les cultures.
J'ai vécu dans une ville, Beyrouth, qui à l'époque, avant la guerre du Liban, était une ville où il y avait effectivement toutes les cultures, toutes les religions, dans les mêmes quartiers. Quand on vit dans un tel pays et puis quand on émigre vers l'Europe, on a constamment cette préoccupation de parler de ces cultures, de la difficulté de compréhension mutuelle entre ces cultures.
Ne nous laissons pas abattre par la crise ambiante qui fait que chacun reste chez soi et suivons l'exemple de Mamie Chantal et de ses camarades de la maison de retraite de Vesoul.
Ces deux étudiantes souhaitaient, elles, apprendre le tricot.
Faut toujours piquer dans la dernière maille.
Petit à petit, le pull se tricote, nourri de toutes les influences. Pendant qu'elle tricote, Mamie Chantal nous lit une page des croisades vues par les Arabes d'Amin Maalouf.
Quand je visitais Jérusalem, j'avais l'habitude de me rendre à la mosquée Al-Aqsa, lieu de séjour de mes amis templiers. Il y avait sur un des côtés un petit oratoire où les franges avait installé une église. Les Templiers mettaient cet endroit à ma disposition pour que j'y fasse mes prières. Un jour, je suis entré et j'allais commencer la prière lorsqu'un homme, un frange, se précipita sur moi, m'empoigna et me tourna le visage vers l'Orient en me disant « C'est ainsi compris ». Tout de suite, des Templiers accoururent et l'éloignèrent de moi et s'excusèrent envers moi en me disant « C'est un étranger, il vient d'arriver du pays des Franges et il n'a jamais vu quelqu'un prier sans se tourner vers l'Orient ».
Nous sommes à une époque où il est très difficile de faire vivre ensemble des gens différents.
Ouvrons les yeux sur tout et partout et écoutons les autres.
Dans la culture arabe médiévale, le savant, l'ouléma, le hakim, est le détenteur d'un savoir religieux qui s'étend à toutes les disciplines touchant à la connaissance du beau et du bien. Le Coran incite le musulman à l'étude et à la recherche. Les traditions du prophète sont pleines de récits favorables à la science. Cherchez la science depuis le berceau jusqu'à la tombe, même jusqu'en Chine, où celui qui cheminera à la recherche de la science, Dieu cheminera avec lui sur la voie du paradis. Ou encore, il est dit dans le Coran, aux yeux de Dieu, le sang du savant est plus précieux que le sang du martyr. Voilà donc nos ouvriers écossais qui reviennent enrichis, non pas d'or, mais de savoir. Du savoir que les Templiers ont accumulé depuis plus de 2 siècles au contact de la civilisation arabe. L'Orient médiéval est riche de tous les peuples et de toutes les religions qu'il constitue. L'histoire ne retient que les guerres, pas les périodes de paix qui durent pourtant bien plus longtemps. C'est bien connu, on se fout des felouks qui arrivent à l'heure. Les Byzantins, héritiers grecs de l'Empire romain d'Orient, les Latins, les chrétiens d'Orient qui furent les premiers disciples du Christ, les savants juifs, les arabo-byzantins normands du royaume de Sicile qui fusionnent avec bonheur ces 3 civilisations, les arabo-andalous du sud de l'Espagne, enfin les Perses qui détiennent l'antique sagesse d'Égypte ainsi que de précieux manuscrits que nos Écossais vont ramener chez eux.
Me, slippy little lips will split me where your eye won't hit me. Yes, I love you, I mean I'd love to get to know you. Sometimes I say the stupid things I think, I mean I sometimes think the stupidest things. Do you ever wonder how the boy feels? Catherine, kiss me. Flick your cigarette, then kiss me. Flick your eyes at mine so briefly. Your leather jacket lies in sticky pools of cider blackberry. You glance a ricochet from every alpha male behind me. Eyes like marbles on a washing machine. I wonder. How the boy feels. And though your opened eyes stare bored upon the overflowing pipes above me, tonight I don't mind, because I never wonder how the girl feels.
André, une musique arabo-écossaise, ça donnerait quoi?
Alors, on va partir effectivement sur la route des Templiers qui vont rassembler toute la sagesse d'Orient et l'introduire en Occident. Donc, une musique arabo-écossaise, on va être sur des modes complètement différents. Pourquoi? Parce que les Écossais vont hériter de la musique des Celtes, qui est une musique pentatonique, à partir de laquelle on va expulser les fameuses notes sensibles qui donnent le sentiment. La gamme pentatonique, j'en ai déjà parlé. Pinta 5 en grec, donc on a 5 notes au lieu d'en avoir 7. Et sont expulsés le fa et le si qui ne sont qu'à un demi-ton, le fa du mi et le si du do. Donc ces deux notes qui sont les notes les plus instables, on les enlève et à ce moment-là, on a une sorte de gamme qui est utilisée dans beaucoup de civilisations. Alors ça a l'air d'une musique qui est plutôt joyeuse comme ça, mais on va pouvoir exprimer pas mal de choses quand même avec ça. Cette musique, on l'entend également en Chine. On l'entend chez les Indiens, on l'entend dans toutes les civilisations. Donc on se retrouve avec une gamme qui n'a plus que 5 notes. Si on regarde les modes maintenant chez les Arabes, on s'aperçoit que si nous avons une gamme tonale à sept notes et si notre plus petite division est le demi-ton, eux sont beaucoup plus subtils puisqu'ils utilisent le quart de ton, voire dans certaines civilisations, notamment le quart de ton, il est presque un neuvième de ton. Et là, je peux pas vous le faire avec le piano puisque moi, mon plus petit intervalle, c'est le demi-ton. Mais imaginez une note qui est coincée entre le do et le do dièse. Je peux même pas vous la chanter. Et pourtant, cet intervalle subtil existe. Donc, on va dire que on pourrait être à des antipodes de la gamme pentatonique qui n'a que 5 tons, alors que dans la musique arabe, si je divise en quart de ton, bah, tout d'un coup, j'ai presque une gamme à 24 notes. Donc, imaginez le décalage culturel. Et pourtant, il y a une manière de les réunir. Ces deux modes, on va les appeler des modes, le mode pentatonique et le mode arabe. Et ceux qui vont les réunir, ce sont les Éthiopiens. Parce que les Éthiopiens, ils travaillent avec une gamme à 5 notes, mais au lieu qu'elle n'utilise que des tons, elle va utiliser des demi-tons aussi. C'est l'Écossais et voilà l'Éthiopien qui lui répond. En fait, l'idée, c'est qu'il introduit encore une fois dans la gamme pentatonique, eh bien, le demi-ton chromatique. Et la musique éthiopienne est une des plus riches qui soit et les plus préservées également puisque l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'ait jamais été colonisé. Ils ont résisté à tout, à Addis Abeba à 2800 mètres d'altitude, donc ils se sont toujours réfugiés dans la montagne. Et voilà cette musique qui finalement réunit l'Orient et l'Occident, la gamme pentatonique des Écossais et la gamme avec le quart de ton des Arabes. Évidemment, au-delà de la musique éthiopienne, ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est une autre musique qui utilise la gamme pentatonique et qui s'appelle le blues, bien sûr. Pourquoi le blues met tout le monde d'accord? Parce que le blues joue sur ce fameux demi-ton qui est un peu interdit dans la musique pentatonique, mais qui va donner tout le sel à la gamme du blues. Je joue ma gamme pentatonique, do, ré, mi, sol, la, sol, mi, ré, do. Mais au lieu de jouer un accord de do majeur, ce qui serait logique, je vais jouer un accord de la majeur. Et tout d'un coup, mon do va créer une dissonance. Et c'est là que je vais avoir toute l'essence de la musique du blues. Moralité, les Écossais, les Arabes, les Indiens, les Chinois, les Jivarous, les Égyptiens, les Arméniens, les Juifs, les gens du Mozambique et de la Haute-Volta et enfin des Hautes-Vallées du Nil, tout le monde uni sur une seule gamme, la gamme du blues. Et ça suffit maintenant!
Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a Candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Front of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole.
Ainsi s'achève cette émission qui était enregistrée par Frère David Federman de l'Ordre des ingénieurs du son de Radio France, Sœur Fanny Boyon de l'Ordre des réalisatrices de la Maison Inter, Sœur Elsa Denac de la Maison des Anges Malicieux, Sœur Muriel Pérez qui nous a assuré cette programmation formidable. Et moi, j'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.